Alors, ce matin, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de la grâce. Parce que Vincent nous en a parlé, ça nous a fait beaucoup de bien. Et cette semaine, alors qu'on avait les fondamentaux avec le groupe de fondamentaux à la maison, les jeunes étaient là, et puis la question, c'était la question de la grâce. Vous vous en souvenez, là, les jeunes qui étaient à la maison? Ouais. Et puis, il y a eu beaucoup de questions, on a beaucoup partagé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué pour nous, surtout dans notre culture occidentale, de maîtriser, de comprendre. Effectivement, on peut comprendre intellectuellement, on peut comprendre bibliquement, mais la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement une faveur imméritée, un concept biblique qu'on accepte, et quand un prédicateur dit « c'est par la grâce de Dieu », on dit « Amen ». La grâce, c'est une puissance, et c'est quelque chose qu'il est nécessaire de vivre. Il faut marcher par la grâce, se couvrir de la grâce, et vivre dans la grâce. Et c'est quelque chose qui est plus compliqué au quotidien. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus et je vais vous parler de l'architecture de la grâce. Alors, on vit dans un monde assez paradoxal, quand même vraiment bizarre, parce que on n'a jamais aussi peu travaillé. Alors, ceux qui travaillent beaucoup, ils vont dire, ouh, non, on n'a jamais aussi peu travaillé. Nos grands-parents se sont cassés le dos dans les champs, dans les mines, pour qu'on puisse avoir tout ce confort qu'on a actuellement. On vit avec des robots, des machines qui travaillent pour nous, on travaille à notre efficience et à notre efficacité, et pourtant, on n'a jamais été aussi épuisé. Partout, partout, quand vous parlez avec les gens, la chose qui revient régulièrement, je suis fatigué, je suis épuisé, mon moral est au plus bas. Parlez avec vos collègues, ils disent, je travaille pour aller en vacances. Vous voyez, ils travaillent toute l'année pour les 5 semaines de congés qu'ils vont avoir. Et c'est quelque chose qui est omniprésent dans la société. Et on parle d'anxiété. Les collégiens, déjà au collège, sont pris d'angoisse, d'anxiété, vivent mal leurs études. C'est terrible. Pourtant, à l'époque, les enfants allaient bosser, allaient dans les champs avec les parents. Il fallait faire des enfants pour avoir de la main-d'œuvre, vous voyez. Et maintenant, on a tout et les enfants sont stressés. Un stress ambiant. On parle de burn-out. C'est assez récent, 10 années qu'on parle de ça. Burn-out du travail. Les gens vivent un stress intense. C'est paradoxal. Parce que les rois de l'époque n'auraient pas pu rêver d'autant de confort de ce que nous avons aujourd'hui. Et nous vivons dans l'opulence et le confort. Et pourtant, on est épuisé, éreinté, fatigué, stressé. On est comme une baguette, là, qui est tendue, 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 tendue jusqu'à ce qu'elle casse. Et quand vous parlez aux personnes autour de vous, finalement, ça impacte tout le monde. Toutes les générations sont stressées. Même les retraités ne s'arrêtent plus. Ils sont stressés. C'est fou. Même à la retraite, on voit des retraités stressés. Et vous savez, ça rentre dans l'Église. Parce que je suis dans le monde, je vis dans le monde, et moi, je rencontre en suivi pastoral des gens stressés, des gens angoissés. Et quand on leur parle de la grâce de Dieu, c'est comme s'ils étaient hermétiques à cette parole, cette bonne nouvelle de Jésus, que, eh bien, il y a quelque chose pour toi de plus. Et la seule question qu'on a, c'est, mais comment je fais? Comment je fais? Tu me parles de la grâce, mais comment je fais dans mon quotidien? Comment je peux mettre ça en place? C'est toujours le comment. Donne-moi une méthode. Et alors qu'on était dans notre réunion mardi soir aux fondamentaux, on parlait de la grâce, et puis j'explique la grâce, et puis je suis passionné, hein, vous vous souvenez, j'étais passionné sur ce sujet-là, j'aime ce sujet. Et puis, une jeune fille me coupe, elle me dit, attends, 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 mais du coup, comment je fais? Je dis, mais t'as pas compris, t'as rien à faire, il faut que tu reçoives. Éphésiens nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et que nous ne méritons rien. Mais c'est par la foi que je saisis cette grâce-là. Et on vit maintenant avec des chrétiens qui de moins en moins savent saisir ce que Dieu leur a donné. On vit avec des méthodes, et je dois prier comme ça, et je dois éduquer mes enfants comme ceci, et puis on vit avec des valeurs, et on retombe dans une religiosité qui nous coupe et qui nous prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une puissance pour nous. On doit marcher dans la grâce. On se doit de marcher dans la grâce parce que Christ est mort pour que tu puisses en profiter. Et lorsque tu t'écartes de la grâce de Dieu, c'est comme si tu te moquais du sacrifice de Christ. Et parfois, on vit un jour dans la grâce et on se coupe de la grâce suivant la nouvelle qu'on va avoir le lendemain. Et puis, on va nous dire, mais prie pour moi. comme si moi j'étais dispensateur de la grâce de Dieu pour tes affaires. Prie pour ta vie. Saisis la grâce que Dieu t'a donnée. Occupe-toi de tes affaires. Alors, on est un peu comme dans... Je réfléchissais à ça et je pensais à cette image, cette histoire de Jésus qui m'a toujours impacté. J'aime Jésus parce que rien n'est fait au hasard dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses actes. Et vous vous souvenez de cette histoire de la multiplication des pains. Jésus est efficace dans son ministère. Partout où il passe, il se passe quelque chose. Il enseigne la parole, il nourrit les foules, il leur parle du royaume de Dieu. Et il voit qu'il y a un besoin, il répond à ce besoin-là. Et il opère un miracle. Ce n'est jamais des miracles pour des miracles. Sa réponse est utile. Et il va dire à ses disciples, on va prendre le verset, Julien, ce sera plus explicite, c'est dans Marc, chapitre 6, verset 48. C'est une histoire qui est racontée évidemment dans tous les évangiles. Et vous voyez, il vit qu'il y avait... Il envoie, c'est plutôt dans le verset, il les oblige à passer par l'autre bord. Et ce que va faire Jésus, c'est qu'il va monter sur la montagne pour prier. Je vous donne un peu le contexte. Jésus a passé une journée forte, il a libéré la grâce, mais maintenant il a besoin de se ressourcer, il monte sur la montagne, il va à la rencontre de son père, et puis il dit aux disciples, allez de l'autre côté, je vous oblige, vous devez aller là-bas, moi je vais me ressourcer, je vais dans la montagne. Et là, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. Incroyable. On s'arrête là. L'histoire est exceptionnelle. Il les envoie, et Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples, c'est toujours pour quelque chose. Il ne les envoie pas pour rien. Ici, il y a une leçon à tirer de cette histoire-là. Parfois, dans notre vie, on est comme les disciples. On rame. On rame. On rame. On rame pour être de bons chrétiens, pour avoir la bonne attitude devant nos collègues. On rame pour bien éduquer nos enfants, selon les valeurs du royaume de Dieu. On rame, comme on l'a dit, contre les addictions, les péchés, les choses qui nous tombent dessus. Et on est là, on est des rameurs professionnels. Est-ce que tu te sens dans ça? Moi, je suis un rameur professionnel. Il y a des sujets dans ma vie, je rame. Et on est tous pareils. Tu ne peux pas me dire que toi, c'est facile. Non. La réalité, c'est qu'on est confronté à ce monde. On est confronté à cette mer qui s'agite. Et puis, on a une destination, on a un objectif, on veut servir Dieu. Et pourtant, les flots se déchaînent, le vent est contraire. Et on s'est dit, si je rame encore un peu plus fort, peut-être que je vais arriver au bout. Ça, c'est notre pensée humaine. Encore un peu plus d'effort. Je vais jeûner un peu plus. Je vais prier un peu plus. Je vais confesser un peu plus. Je vais tuer la chair un peu plus. Je vais façonner ma volonté un peu plus. Et Jésus te regarde du haut comme ça, et il voit que tu galères. Il regarde, et il dit, tiens, moi je vais marcher à côté d'eux. Qui est le plus fatigué de tous là? Je peux vous assurer que quand vous œuvrez pour Dieu spirituellement, vous êtes épuisé. J'ai fait des missions, j'ai fait des séminaires, j'ai fait des choses où j'ai dû donner spirituellement. À la fin de ta journée, tu es épuisé. Tu es littéralement essoré. Il n'y a plus rien de toi, il n'existe plus rien. Jésus était épuisé. Il est monté se ressourcer vers le Père. Et eux, ils sont là en train de ramer, ils sont épuisés. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il marche tranquillement sur les eaux, voulant les dépasser. Il est en train de les provoquer quelque part. Il dit, vas-y, allez, Jésus. Et là, on nous dit qu'ils ont eu peur. Mais c'est quoi un fantôme? Et il leur dit, mais vous inquiétez pas, c'est moi. Et Jésus revient à eux, et il monte dans la barque. Et là, on nous dit que la tempête s'arrête, et qu'au moment où il met le pied dans la barque, ils sont arrivés à destination. Pourtant, quand Jésus les voit, ils étaient où? Au milieu du lac. Ils n'avançaient pas. Au moment où Jésus entre dans la barque, ils arrivent où? À destination. Incroyable. Ben ça, c'est la grâce de Dieu de laquelle on se prive souvent, parce qu'on veut ramer. On veut... fonctionner par nous-mêmes. Et cet esprit-là, vous savez, c'est quoi comme esprit? C'est un nom très clair. C'est un virus. Et c'est un virus qui touche le monde, mais qui rentre dans l'Église. Et il faut qu'on se prémunisse contre lui. C'est l'esprit d'orphelin. L'esprit d'orphelin. On oublie qu'on a un Père céleste. Et vous savez comment fonctionne un orphelin? Un orphelin n'a pas de modèle. Un orphelin n'a pas, on ne lui a pas appris comment fonctionner. Imaginez, moi je vais parler pour les hommes. Je ne suis pas une femme, donc je vais parler pour les hommes. Un jeune homme a besoin d'un modèle dans sa vie, qu'il va dépasser ou il va fonctionner peut-être différemment, mais il a besoin qu'on lui montre un chemin clair. Et beaucoup vivent avec cet esprit d'orphelin parce qu'ils n'ont pas eu de modèle. Et ce qui va fonctionner pour eux, c'est de se dire, bah, finalement, je dois vivre, je suis là, et pour vivre, je vais devoir me faire moi-même. Je vais devoir apprendre par moi-même. Je vais devoir me construire moi-même. Et finalement, c'est un système terrible, parce que c'est « je fais, donc je suis ». L'équation est simple, « je fais égale je suis ». Et tu vas fonctionner comme ça régulièrement. Et ça rentre dans l'Église. Dieu, j'ai prié, il ne se passe rien, donc il faut que je produise quelque chose. Et on va essayer de produire ce que Dieu voudrait pour nous par nos propres forces. À partir du moment où cet esprit rentre chez toi, tu te prives de la grâce de Dieu. Et moi, je suis un pro pour me priver de la grâce de Dieu, tu sais. Parce que j'aime bien faire par moi-même. Il y en a des comme moi ici ou je suis tout seul? Moi, j'aime bien faire par moi-même. Une fois, j'étais avec un jeune homme et il me disait, « Alexis, je comprends ce que tu dis, je comprends les principes de la grâce, mais comment je fais? Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et pour mon caractère, et pour mes addictions, et pour ceci, et pour cela, mais ça fait mal. » Mais vous savez, la grâce de Dieu, pour la saisir, il faut accepter d'être frustré. Moi, je suis souvent frustré quand je lis les évangiles, parce que je vois ce que Dieu m'invite à faire et je vois ce que je suis. Et quand j'accepte ce que je suis dans mes incapacités, que je dis, OK, Seigneur, je suis incapable, je me suis battu pendant une semaine, un mois, deux mois avec ça, mais à un moment donné, je dis, ça suffit, je n'y arrive pas par moi-même. Seigneur, je t'invite vraiment dans ma vie. Et bien, c'est là où je fais quoi? J'abandonne mon orgueil pour ouvrir mon cœur avec humilité à ce que Dieu veut pour moi. Et ça, on me demande souvent, mais comment faire? Mais en fait, je ne peux pas le faire pour toi. C'est entre toi et Dieu, c'est ton cœur et Dieu, c'est ton abandon à toi envers Dieu. Il n'y a pas de méthode, c'est un cœur à cœur. Je laisse ce que je suis capable de faire pour dire, Seigneur, qu'es-tu capable de faire en moi? Ça vous va? Alors Jésus marche sur la tempête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il se crée, pendant que toi tu galères, Jésus se crée un trottoir. Ce qui est difficile pour toi, lui, c'est un trottoir pour lui, il se promène. Tu vois. Dans tes difficultés, lui, il se promène. Il est au-dessus de tes combats, au-dessus de tes difficultés. Mais juste ce principe simple, tu le sais intellectuellement, mais quand tu es dans les problèmes, tu l'oublies. C'est juste ou pas? Moi, quand je rame, une vague après l'autre, et allez, j'oublie que Jésus marche à côté de moi, tu vois. J'oublie qu'il est au-dessus de tout ça. J'oublie que pour lui, le vent, c'est rien du tout. Et il est là, notre problème. C'est pas dans le fait de savoir, c'est dans le fait de vivre la grâce de Dieu, dans ces situations-là. Et ce matin, on priait à l'intercession. Et Prudence, si tu peux nous partager ce que tu avais reçu, c'était pertinent, je me suis dit, je vais lui donner la parole.
Bonjour à tous. Alors, ce matin, quand on priait, le Seigneur m'a ramené un peu dans ma jeunesse, quand j'étais encore étudiante, et de la manière dont j'ai révisé, parce que j'étais souvent fixée sur la réussite. Je ne voulais pas réviser et échouer en deuxième session. Je mettais vraiment mon énergie pour arriver à valider mes examens. Et je disais à mon Dieu, mais quel rapport avec les spirituels et quand j'étais étudiante. Et pendant qu'on priait, Dieu m'a dit, c'est pareil la marche avec moi, devant les épreuves. Réfléchis un peu, quand tu es face aux épreuves, à l'église on t'enseigne tellement de choses. On te dit que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu ne t'abandonne pas, Dieu ne te délaisse pas. Ça, c'était cours de maths, physique, informatique, chimie, tout ce que tu peux apprendre comme leçon. Et maintenant, ces notions-là que tu apprends à l'école, maths, chimie, physique, tu passes des épreuves, des évaluations. Et tu cherches à valider ces examens. Et la foi, c'est pareil. Tu es face aux épreuves. On t'a appris que Dieu est fidèle. On t'a appris que Dieu ne t'abandonne pas. On t'a appris que Dieu ne te délaisse pas. Mais maintenant, l'épreuve, c'est ton examen. Comment tu vis cette situation-là, cette épreuve-là? Est-ce que tu dis, bon, c'est tellement compliqué, Ben Dieu, j'en peux plus, je t'abandonne, j'abandonne ma foi, je te supplie, je marche plus avec toi, je prie plus, je reste dans mon coin, je pars plus à l'église, je suis fâché. Ça, si tu fais ça, tu échoues à ton épreuve. Mais quand c'est compliqué, qu'est-ce que tu dois faire, Prudence? Qu'est-ce que l'église doit faire quand c'est compliqué? Ben, Dieu est fidèle. Moi, je reste fidèle à mon Dieu. Dieu est amour. Je m'attache à son amour. Dieu ne m'abandonne pas. Je reste confiant que Dieu ne m'abandonne pas. Même si ma situation va durer un an, on ne sait pas. 2 ans, 3 ans. Je suis toujours dans la même situation. Pas de mari, pas de travail, pas ceci, pas cela. J'abandonne pas. Je continue à croire ce que la parole de Dieu dit. Jusqu'à ce que je puisse avoir la victoire face à cette épreuve. Et c'est là où je dirais, oui, je validais mon année. Ah, merci Seigneur, j'ai eu 18 sur 20. J'ai eu 16 sur 20, 14 sur 20. C'est ça, les épreuves. Dieu met les épreuves, pas pour nous décourager, pas pour nous dire que ben, c'est fini, c'est mort pour moi, mais c'est pour te dire qu'il est là. Et c'est ton épreuve, fais tout pour sortir de là victorieux. La fin d'une situation vaut mieux que son commencement. Voilà, c'est ça la parole.
Amen. Et Prudence, elle a trouvé un beau mari, Wilfried, toujours bien habillé, incroyable. C'est la star du phare, lui. Tout le monde le regarde quand il arrive. Mais comment il va être habillé ce matin? Ah, je le taquine un peu. Alors, vous voyez, Jésus, il faut bien comprendre cette histoire. Lui, il est en train de marcher à côté d'eux pour leur dire dans la même situation, non seulement je suis avec vous, je ne vous ai pas habitué, mais vous, vous avez choisi la voie lente de la sueur et de l'effort humain, alors que moi, j'ai suivi l'autoroute de la grâce divine. Viens sur cette autoroute. Et Jésus t'invite. Et puis souvent, dans nos réalités, sois honnête avec toi-même. Je vais y arriver par moi-même. Je vais encore mettre un coup de rame. Et on se prive de la grâce divine. Alors, on va prendre 1 Corinthiens 15, verset 56. C'est des versets qu'on a vus et revus, mais c'est important de se les rappeler. Et on va parler de ces trois choses qui sont nécessaires pour nous. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. La loi, les règles, donnent de la puissance au péché. On dit même que, finalement, la loi excite le péché. C'est comme avoir un mur pour expliquer ça, c'est toujours difficile d'expliquer ça, et pourtant, il y a des images assez claires, et je pensais à ça. C'est comme quand vous voyez, vous arrivez quelque part, et vous voyez un mur flambant neuf, peint en blanc, et il est écrit « ne pas toucher ». Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est sec? Ça vous est tous arrivé, hein? Eh bien, on est tous pareils. Eh bien, c'est ça la loi. La règle excite l'interdit en toi et fait que tu as envie d'aller dans cette direction-là. Un jour, je bossais à Paris dans un grand centre commercial. On posait un parquet pour le magasin Les Petites. C'est un magasin assez réputé et cher de vêtements. Et puis, je parlais avec un chef de la sécurité. Et il avait barricadé l'endroit où on passait parce que forcément, dans le centre commercial, il nous fallait 2-3 mètres au niveau des circulations pour pouvoir circuler et poser notre matériel. Et je le voyais mettre des barrières, des machins, des trucs. Je dis, t'en fais pas un peu trop. Mais il dit, non. Il dit, tu sais pas ce que les gens sont capables de faire pour aller plus vite. Il dit, ils vont sauter au-dessus pour prendre un raccourci, ils vont tout casser. Et au plus il y a de monde, au pire c'est. Ben, c'est ça l'interdit. Il y a un interdit, on est beaucoup, on va tout défoncer, on va y aller. Ça, c'est le péché. Et on est tous attirés vers ça. Donc la parole de Dieu, elle est claire. Lorsqu'on se focalise sur notre colère, lorsqu'on se focalise sur notre péché, lorsqu'on met toute notre énergie dans ça et on rame contre un péché, on lui donne, inconsciemment, on lui donne un pouvoir, on lui donne une autorité sur nos pensées, sur notre vie. On pense qu'à ça. Et on s'éloigne de la grâce de Dieu, encore une fois. Alors, la grâce, ce n'est pas un permis de péché pour les faibles, c'est une puissance de destruction du péché. La grâce, la loi dit fait, la grâce dit c'est fait. Jésus, il a dit « Tout est accompli », c'est que tout est accompli. Et juste cette phrase-là, on doit se la rappeler tous les jours. « Seigneur, tu as dit « Tout est accompli pour moi ». Seigneur, tu as dit que tout est accompli pour moi. Pourquoi je ne le vois pas dans ma réalité ? Parce que le problème, il n'est pas chez toi. Ça veut dire que le problème est chez moi. Le problème est dans ma compréhension de ce que tu as réellement accompli pour moi. Dans la considération que réellement ton sang a coulé, que tu es vraiment ressuscité d'entre les morts, que tu fais de moi ton enfant. Et je ne suis plus un orphelin. Je ne veux plus vivre comme un orphelin. Mais je veux vivre comme l'enfant que je suis en toi, Jésus-Christ. Ce n'est pas un concept théologique qu'on doit juste comprendre intellectuellement. C'est quelque chose qu'on doit vivre, dont on doit s'imprégner. Il faut que ça rentre. Je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça implique pour moi face à ma réalité? Quand je suis sur cette eau où c'est difficile, Jésus il marche et il dit « Mais marche sur cette autoroute divine. Pourquoi tu rames quand tu peux marcher ?» Ce n'est pas notre environnement naturel, la mer. Ce n'est pas notre l'environnement naturel dans lequel on est appelé les difficultés. On est appelé à vivre de gloire en gloire, à vivre, à appeler les choses spirituelles dans notre réalité. Mais on décide de rester dans notre galère. On les vivra, ces situations. Mais il y a une manière de les vivre. Être couvert par le Dieu Tout-Puissant, par sa grâce. Amen. Alors, trois points essentiels. Romains 6, 14 nous dit « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Premier principe de la grâce, ce n'est pas juste un concept pour Dieu, pour nous sauver. Ce n'est pas juste un concept. Mais c'est qu'il y a une puissance de domination. Quand tu es sous la grâce, tu as la puissance contre le péché. C'est une puissance. C'est concret. La Bible nous parle d'une dynamite, quelque chose qui est fort, qui explose. Chez Étienne, c'était « mais c'est plus possible de fumer ». Ça explose quelque chose dans son cœur. Et vous avez tous vécu ça à un moment de votre vie, où c'est plus possible de vivre de la même manière. Ce n'est pas un concept intellectuel. J'ai reçu, je reconnais par la foi en Jésus-Christ que j'ai accès à cette grâce imméritée. Je la reçois, ça explose mon raisonnement. Ça change mes pensées. Ça change mon orientation. Le deuxième point, c'est 1 Corinthiens 15, verset 10. La grâce, ce n'est pas quelque chose pour les paresseux. Et Paul dira, j'ai travaillé plus que tous. En parlant de qui? Il ne parle pas des personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus. Il parle des autres disciples. J'ai travaillé plus que tous. Incroyable. Sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non par moi, toutefois, mais par la grâce. Non par moi-même. Paul n'était pas dans une optique de rendement d'église. Je vais implanter autant d'églises que je peux tant que je suis sur cette terre. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et je vais lever un tel, Non! Il était conduit par la grâce de Dieu. Arrêté à certains moments par l'Esprit. Emmené à d'autres endroits. Éprouvé à d'autres endroits. Et il vivait cette grâce. En toute simplicité. Incroyable! J'ai travaillé plus que tous. La grâce t'invite pas à te mettre dans ton canapé. Ah, c'est bon, je suis sauvé, tout va bien. Elle t'invite à produire quelque chose par Dieu. C'est une puissance de capacité. La grâce te rend capable dans des situations où tu étais incapable humainement. La dernière fois, je disais aux jeunes, je ne sais plus à qui, à China, moi, j'étais très timide enfant. Alors, ceux qui m'ont connu vont dire non. Oui, j'étais excité, mais j'étais très timide. Ce n'est pas la même chose. J'avais beaucoup de vie en moi. À l'époque, on m'aurait nommé hyperactif. Tu vois? Mais ça n'existait pas encore. Vous comprenez? Je courais sous les chaises, là. Je lançais des avions à la fin du culte. J'embêtais tout le monde. Mais j'avais une timidité. J'avais du mal à parler, à interagir avec les gens. Et c'est quelqu'un, mais comment toi? C'est pas possible. Mais quand j'ai reçu vraiment Christ en moi, il y a des choses qui sont tombées. Même mon caractère a changé, ma façon de voir a changé. Ça a explosé des limitations dans mon cœur. Et c'est dur, ça fait mal, il faut accepter cette limite. Et c'est à ce moment-là où certains démissionnent. Ouais, mais je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi. Pourtant, et la grâce de Dieu s'est ouverte. Dieu te le montre. Déploie ton potentiel. Donc c'est une puissance de capacité, ça te rend capable pour le service pour Dieu. C'est une énergie surnaturelle. C'est le Saint-Esprit qui est là pour toi, pour t'aider à servir, aimer et à bâtir sans t'épuiser. Le troisième point de la grâce de Corinthiens 12, chapitre 9, on le connaît bien. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous irez écouter la prédication de Vincent, il en a longuement parlé. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand vous êtes faible, eh bien c'est là où vous allez commencer vraiment à lâcher les rames et c'est là que la puissance de Dieu vous porte réellement. Et malheureusement, en tant qu'humain, on doit attendre d'être épuisé pour lâcher les rames, d'être au bout de nos forces humaines pour lâcher les rames, pour mettre la foi en action. On est dans notre fonctionnement. Et tu sais que ton fonctionnement, ce n'est pas la loi de Moïse, mais c'est une règle que tu t'imposes. Et quand tu t'imposes une règle, eh bien, tu te mets sous cette règle, sous le joug de cette règle, et tu te dispenses de la grâce de Dieu. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent avec des règles. Je dois être comme ça, je ne peux pas être comme ça, il faut fonctionner. Des principes. Ces principes limitent la grâce de Dieu dans ta vie, même si ces principes sont bons à première vue, parce que tu te bloques dans certaines situations. C'est comme la dîme. Je ne sais plus à qui je parlais la semaine dernière. Il m'a dit, la dîme pour les entrepreneurs, c'est pour les débutants. Un entrepreneur, il n'est pas appelé juste à la dîme, mais beaucoup plus. Il dit, oh, j'aime bien cette parole-là, parce que c'est une réalité. Si je me bloque avec une règle de la dîme, eh ben, je ne suis pas capable de libérer la grâce au-delà des 10% quand je suis appelé à le faire. Je suis bloqué dans ma règle. Je suis bloqué dans mon principe. Et Dieu veut te réveiller à un moment donné, dire donne plus, libère plus, j'ai besoin que tu libères plus. Toi, tu es bloqué. Mais non, c'est comme ça, c'est carré. Tu es bloqué. Vous comprenez, c'est dans tous les domaines. On ne veut pas se bloquer. Alors, on va prendre maintenant quelque chose qui est un drame pour les chrétiens et qu'on voit souvent, Hébreux 12, chapitre 15, c'est un avertissement absolu pour nous, qui commençons dans la grâce, qui réellement sommes touchés par l'amour de Christ. On comprend qu'on est capable d'aimer Dieu plus que tout ce que l'on vit, tout ce que l'on est. C'est comme ça que Dieu se déverse en nous. Et pourtant, quelque chose frappe à notre porte. Et on a un avertissement ici. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Nous pouvons consciemment nous priver de la grâce de Dieu. Consciemment. Par trois moyens. Je vais vous les citer. Le retour aux règles, je viens d'en parler. C'est le oui, oui, mais. Oui, tu m'as sauvé, mais je dois faire. Oui, c'est toutes les règles que tu rajoutes au sacrifice de Jésus. Te prive de la grâce de Dieu. Il faut que je fasse ceci. Il faut. Il faut qu'on voit plus de miracles. Ah bon ? C'est même des discours évangéliques. Il faut. Moi, je supporte plus le « il faut ». Il faut. Donc, je ne suis pas assez spirituel. Quoi ? C'est quoi l'histoire ? Pourtant, dans ma relation avec Dieu, je sais que j'ai une relation avec Dieu. Il faut. On est appelé à vivre les promesses de Dieu. Effectivement, il y a des limitations. Mais il n'y a pas de « il faut ». Vivons, soyons. Déclenchons, animons, attirons la présence de Dieu. Mais nous ne pouvons pas provoquer, nous ne pouvons pas créer ce que Dieu doit faire de ses propres mains. Je ne peux pas créer une guérison. Je ne peux pas le faire. Par contre, je peux susciter ma foi qui invite les choses de Dieu sur la terre. Ça, c'est possible. Mais je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne suis pas un devin. Et il faut... compliqué, tu vois, c'est des façons de parler qui te mettent dans une règle et qui te privent de la grâce de Dieu. Ensuite, c'est se faire justice soi-même. Ça, c'est terrible pour les chrétiens. Il t'arrive quelque chose et tu as décidé que là, ce n'était pas possible. Tu vas rentrer dans la prière en tant qu'homme et femme spirituelle, tu vas mettre ça dans la prière, mais ça traîne un peu. Tu vas appeler un avocat, tu vas dire « règle mon problème ». Je ne te dis pas qu'il ne faut pas prendre d'avocat dans certaines situations, hein. Entends-moi bien. Mais c'est quand ton cœur est orienté à te faire justice toi-même. J'irai au bout, coûte que coûte, parce que j'ai été lésé. Et là, ce n'est pas normal. Et tu vas entendre des discours, mais de toute manière, chez des chrétiens, la société nous pompe. et je paye trop d'impôts, et il y a ceci, et de toute façon, lui, il m'a volé. C'est quoi ces discussions-là? C'est des paroles remplies d'amertume qui te privent de la grâce de Dieu. Tu es en train de ramer contre un problème, tu affrontes tous les vents. Jésus, à côté de toi, il marche. Il dit, quand est-ce que tu viens sur l'autoroute de la grâce divine? C'est là que je t'attends. Tu te prives de la grâce de Dieu quand tu agis comme ça, quand ton cœur est orienté dans ce sens-là. Tu veux te venger et puis tu boudes. Tu commences à bouder l'église, tu boudes Dieu, tu boudes le pasteur parce qu'il n'a pas prié pour toi. Et toi, tu n'es pas un pasteur, des paroles comme ça. Et toi, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ah bon? Ben, tu t'es privé de la grâce pour ton problème. Tu régleras ça devant Dieu. Tu comprends ça? C'est compliqué, hein? Il faut lâcher l'offense. Lâcher l'offense, c'est difficile pour nous, êtres humains. Difficile. Et quand on lâche l'offense, la grâce de Dieu, on l'a chanté, à un moment donné, Dieu, eh bien, il ne nous a jamais abandonnés, il s'approche à nouveau de nous. Mais quand je prends le marteau du juge et que je veux taper, Dieu, il recule comme ça, tout doucement. Bah, débrouille-toi, essaye, et tu perds ton temps. Je te parle comme ça parce que je l'ai fait, hein, je l'ai vécu. Ce n'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Ensuite, c'est le troisième point, c'est le refus de la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas accueillir la grâce de Dieu d'un côté et finalement tu es seulement un canal, celui qui est pourvoyeur, la source c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, je suis connecté à la source, j'accueille ce qu'il me donne et alors je veux accueillir la grâce de Dieu pour ma réalité, pour ma vie, le pardon de mes péchés, de mes fautes, de mes erreurs, mais de l'autre côté, imaginez un tuyau d'arrosage, je bouche le tuyau pour les autres. Tu bouches le tuyau pour les autres. Ce n'est pas possible. Quand tu bouches le tuyau pour ta femme, pour tes enfants, pour tes collègues, tu te prives, tu te déconnectes de la source. Tu refuses la miséricorde. Tu commences à juger, tu commences à être impitoyable. Il y a des chrétiens impitoyables aussi. Hein. Impitoyables. Mais lui, il est comme ça. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Ah. Vous savez, ce matin, j'aurais pu être impitoyable avec vous. Ah, tu vas dire, c'est dur. Ouais, parce que moi, j'étais là tôt. Je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai cherché Dieu avant que le culte commence, l'équipe de louange aussi. Et puis, j'arrive à une certaine heure, et puis je vois les chrétiens sont pas là. Ben, je me suis dit, la semaine prochaine, je vais dire à Sandy et Paul qu'on fait le culte chez eux, tranquille, à quatre, avec Antoine, Wilfried, parce que nous, on sait se réveiller pour aller à l'église. Et je peux être impitoyable et commencer à juger tout le monde, parce que c'est vrai. Mais j'ai décidé d'être dans la grâce avec vous. Parce que ce n'est pas grave. Dieu touchera ton cœur. Peut-être qu'un jour, tu seras à l'heure. Et vous voyez, une petite chose comme ça peut animer ton cœur d'amertume. Ah, moi je me suis levé. Oui, je me suis levé alors. Je ne vais pas commencer à être juge pour tout le monde. Chacun sa responsabilité. Dieu te donne la grâce, mais tu en as la responsabilité par la suite dans ta vie chrétienne. Ça marche? Chacun est responsable. La grâce, c'est un repos profond pour l'âme. Parce que face à la mer, face aux difficultés, on est reposé, on est avec Jésus-Christ. On vit avec lui. Vous avez vu, Paul et Sandy, ils sont passés par des moments difficiles, ils ont traversé ça dans la grâce. Quelqu'un m'a dit, mais ils étaient là, ils louaient le Seigneur. Oui, ils louent le Seigneur. Ils ne vont pas abandonner la louange. C'est leur plus grande force. Vous comprenez ça? Ils ne vont pas s'enfermer dans le deuil. Le deuil est là. Et ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Mais avec Jésus-Christ, avec la grâce. Dans ma maladie, dans mes difficultés, dans mes problèmes, je ne veux pas être démissionnaire de la grâce de Dieu. Parce que quand je démissionne, je prends une sacrée claque. Ça va? N'étouffe pas ce que Dieu t'a donné. Mon message, ce n'est pas seulement un message pour les fatigués. Les gens fatigués qui rament et qui rament et qui rament. Mon message, c'est aussi pour les constipés. Excusez-moi du terme. Les constipés spirituels. J'appelle ça les frigos. Ils ont tout reçu, mais c'est des frigos. Tu vois? Faut que ça reste froid. Je ne libère pas ce que Dieu m'a donné. Je suis tellement béni, mais je ne libère pas. Ça, c'est être constipé. Je garde tout pour moi. C'est l'image de la mer morte. Dieu m'a donné une source, mais je ferme. Je garde pour moi. Esprit d'orphelin. Quand tu gardes pour toi, tu as peur de manquer. Tu n'as pas eu l'exemple de quelqu'un qui libère la bénédiction autour de toi. Moi, mon père, il m'a fatigué toute ma jeunesse. Il libérait trop la bénédiction, lui. Et puis, ils n'avaient pas beaucoup de sous, et puis machin, et puis il offre la voiture là-bas, il donne à manger là, il ouvre la porte là-bas. Je dis, mais pourquoi il fait ça? Il n'arrive même pas à me payer mes jeux et mon inscription au tennis, et puis il ouvre le frigo pour les autres. Mais j'ai compris plus tard, il a libéré la grâce, et aujourd'hui, ils manquent de rien, ils n'ont jamais manqué de rien. D'accord? Dieu est bon. Le seul principe, c'était je libère. J'ai reçu 10, je donne 5, je donne 10, je donne 8 selon ce que Dieu met dans mon cœur. Mais je libère. Je suis rempli d'amour. J'ai une belle famille. J'ouvre les portes de ma famille pour bénir les autres. Ça marche? Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je ne m'enferme pas dans ma construction individualiste occidentale. Je libère la grâce autour de moi dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je suis. On ne veut pas être constipé. Amen. Alors, vous avez cette histoire qui nous parle de ça, c'est Jésus qui nous donne cette parabole du maître qui va distribuer les talents. On va dire que les talents, c'est la grâce que Dieu a déposée dans ton cœur. On a tous une couleur de Jésus-Christ. Si on prenait une photo ici, eh bien, on a tous une couleur qui représente Christ et on a tous quelque chose de lui, une part de Jésus en nous. Ma part n'est pas ta part n'est pas la mienne. Et quand Dieu te donne ça, il dit, maintenant, il faut que tu fasses fructifier cette part. Il faut que tu utilises ce talon. Et vous allez voir que tous ceux qui vont fructifier la grâce que Dieu leur a donnée, il va leur dire, bon et fidèle serviteur. Et celui qui a eu peur, il va lui dire quoi? Quelqu'un sait ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, méchant. Méchant. C'est dur, ça peut paraître dur. Mais méchant, pourquoi? Parce qu'on n'a pas une grâce à bas coût. Dieu a donné son Fils. Son sang a coulé. Et toi, tu planques ce que Dieu t'a donné. C'est se moquer de Jésus. Dieu te donne la capacité d'avoir une compassion spéciale pour les gens. Et tu retiens, tu restes dans ton canapé, tu ne libères pas la compassion. Dieu t'a donné une capacité de service. Toi, tu calcules pas, tu vois, tu sers les autres, mais tu retiens. Et bien, tu es en train d'enterrer la grâce. Tu es quelqu'un qui est capable d'ouvrir sa maison, qui accueille, mais tu retiens la grâce. Parce que tu es fatigué, parce que machin, parce que tu es en train de ramer. Tu es quelqu'un qui a reçu des dons spirituels, mais tu es timide, donc tu fermes ta bouche. Tu retiens la grâce. Et on a tous une grâce différente. Ça veut dire qu'ensemble, on a un beau bouquet, on a une belle couleur. C'est incroyable. Tu as une grâce pour l'encouragement. Il y a des gens, ils sont exceptionnels. Moi, j'aime beaucoup... les Beaux-Suites, la famille Beaux-Suites, je vous aime beaucoup parce que vous avez une grâce pour l'encouragement. Incroyable. Vous parlez avec Adeline, vous parlez avec Julien, avec Pierre, ils vous encouragent ces gens-là. Juste parce qu'ils sourient, mais c'est bien l'aide, c'est super. Moi, quand j'ai besoin d'être encouragé dans l'église, je dis lundi matin, je parle avec Pierre. Pierre, il m'encourage, tu vois. Bon, Alex, on va y arriver, c'est vrai, c'est difficile, mais ça va aller. Ah, une grâce. Heureusement qu'il ouvre sa bouche, il me fait du bien. Ça peut paraître simple, mais ça, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et parfois, on éteint le don de Dieu parce qu'on est dans nos règles, dans les choses formelles, et on se prive. Certains ont reçu une grâce de leadership, de sagesse, mais ils sont en retrait. Et j'ai déjà entendu, moi, je ne vais pas servir l'Église parce que si je rentre dans le fonctionnement de l'Église, je vais braquer tout le monde. Reste avec ton braquage, reste avec ta façon de parler. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais braquer tout le monde. Mais rends-toi compte que tu n'es pas appelé à braquer tout le monde. Change ton cœur. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Et ça, c'est un problème. C'est des choses qu'on entend. Je vous donne. C'est du vécu, c'est pas. On entend des choses comme ça. Et pourtant, Dieu veut t'utiliser. Tu es son enfant. Tu n'es pas un orphelin. Certains, je l'ai dit, ont la grâce de la générosité. Mais garde tout. Peur de l'avenir. Dans la famille de Chanel, les grands-parents ont travaillé dur. Très dur. Très dur. Toute leur vie, c'est des gens qui ont travaillé de leurs mains. Ils ont constitué un patrimoine exceptionnel. Mais ils n'ont jamais su libérer. Et pourquoi? Par peur que les enfants dilapident, que les enfants fassent mal. Et finalement, c'est la guerre entre les enfants. Enfin, moi, je suis content, mes parents, ils ne vont pas me laisser grand-chose. J'ai dit à mon père, moi, je veux une chose. J'ai dit à mes frères et soeurs, je veux les bibles de mon père. Tout ce que je veux. Et le bureau en chêne est beau. Le reste, tu veux le garder, garde-le. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on veut, on est des héritiers de la grâce de Dieu, pas seulement des choses charnelles, terrestres. On a une richesse, on est connecté à un réservoir exceptionnel. Et on s'en prive tellement parfois parce qu'on veut construire notre vie par nos propres forces. C'est triste, mais c'est notre réalité. Retiens bien ces choses-là. Tu ne peux pas fabriquer ta joie toi-même. Tu ne peux pas fabriquer ta paix toi-même. Tu ne peux pas fabriquer ton espérance toi-même. Les gens qui cherchent à fabriquer leur joie, ils sont dans les plaisirs, dans la jouissance de ce monde. Est-ce qu'ils sont plus heureux que toi? Non. Certains cherchent à travailler à leur paix. Alors, il faut qu'ils aient tout, tu vois. Ils n'ont pas plus de paix. C'est comme essayer de fabriquer l'oxygène soi-même. La réalité, c'est l'oxygène, il est là, tu le respires. Tu respires l'oxygène. L'orphelin essaie de fabriquer lui-même. Alors que le fils reçoit l'héritage. Il comprend qu'il n'a rien mérité, il dit, mais c'est incroyable. Je reçois ma part, Seigneur, et je vis pour ta gloire maintenant. Je redonne en retour. Tu me suis? On veut exploiter ce gisement. Est-ce que tu as exploité ce gisement cette semaine? Moi, j'ai eu du mal cette semaine à exploiter mon gisement. Je suis clair avec vous. Il m'est arrivé des trucs et je me battais contre moi-même. Je dis, Alex, tu peux pas! Arrête! Et je ramais là un peu. Je ramais un peu là contre moi. Vous voyez, on a un caractère. Hein? Non, il n'y a que moi qui ai un caractère. C'est tous des bons chrétiens, gentils, doux, souples. Non, on a un caractère. Hein? Et je dis, Seigneur, ok, j'accueille ta grâce. J'accueille ta grâce. Je ne peux pas prêcher mardi ta grâce et m'en priver mercredi. Ce n'est pas possible. Vous voyez, moi, c'est mes combats. J'ai prêché, je vis. Sinon, je sais que tu vas me juger plus durement. Hein. Donc, j'ai intérêt à le vivre. Donc, j'ai annoncé ça mardi aux jeunes, là. Mercredi, il m'arrive quelque chose. Oh, ta grâce, Seigneur. L'épreuve dont on a appris. Mais je n'ai pas fui face à l'épreuve. Certains fuient face à cette épreuve-là. Vous voyez, c'est comme des étudiants, ils ont peur. Ils n'ont jamais travaillé. Ils arrivent face à la copie et ils tremblent. Non, on a travaillé pour ça, on est fidèle à Dieu, on cherche Dieu tous les jours. Je vais affronter cette réalité, mais avec toi, Seigneur. Je vais aller sur l'autoroute de la grâce. Amen. Alors, finalement, comment pratiquer tout ça? Pour ne pas s'épuiser, pour ne pas être un orphelin et pour produire des fruits comme un fils, eh bien, on respire. On respire cet oxygène. Expirer, c'est premièrement inspirer. Qu'est-ce qu'on fait? Romains 8, verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Peut-être que tu n'as pas eu de modèle sur cette terre, de bon modèle, mais tu dis « Seigneur, tu es mon modèle, j'inspire tout ce qui vient de ton royaume maintenant ». Je me connecte un peu avec des chrétiens. Je vis mon culte. Le dimanche, c'est mon culte. C'est là où je vais respirer ta parole. Je vais dans le lieu secret. Je vous ai parlé du lieu saint, le lieu très saint, de sortir des parvis. J'inspire. Jésus est monté sur la montagne. Il a inspiré de Dieu. Il a inspiré de sa présence. Il a parlé avec lui. Et les uns, ils sont en train de ramer. Et lui, il marche. Il marche sur les épreuves parce qu'il est rempli de Dieu. Il n'y a pas de secret. Comment je dois faire, Alex? Mais va devant Dieu. Je parlais à un jeune et je lui avais donné des conseils. Et il m'appelle et il me dit, Alexis, il faut qu'on parle. Ok, on va parler. Tu sais, il y a tel problème, tel problème, tel problème. J'écoute même pas les problèmes. Je dis, écoute, je peux pas t'écouter parce que je t'ai déjà donné la clé. Tu dois aller à ta manière devant Dieu. Si tu aimes jouer de ton piano, va devant Dieu. Ouvre ton cœur devant Dieu. Si tu aimes prier, va dans la prière. Si, peu importe la manière, je ne vais pas te donner une règle, mais tu dois parler à ton Dieu. Ouvre-lui ton cœur, ce n'est pas à moi que tu dois parler. Et ensuite, on pourra discuter. Et là, je lui ai dit, je te laisse 4 jours. Lundi, je te rappelle, il faut que tu sois allé devant Dieu en toute simplicité, avec ta grâce, avec ta façon de lui parler à ton père. Aurélie, elle va d'une certaine manière devant mon père. Elle m'énervait quand elle était jeune, parce qu'on se partageait la voiture, tu vois. Il y avait une voiture, et quand on a tous eu le permis en même temps, à un moment donné, une voiture. Et elle allait vers son père comme ça, « Pape, pape, s'il te plaît, j'ai besoin de ci. » Et lui, il craquait. Alors moi, je réclamais justice. Lui, il lui fait grâce, c'est pas à moi. Mais justice, et moi, c'est quand? Je dis, mais pape, elle ne me remet même pas l'essence. Et tu lui prêtes toujours. Mais j'aime ma fille, c'est ma petite orec.
Ah, moi j'étais fou. Puis après, moi je disais, pape, faut que j'aille voir Chanel à Arras, prête-moi la voiture. Tu vas mettre l'essence, Alex, mais vas-y, prends la voiture. C'était pas le même père, mais une façon de parler différemment. Et c'est ce que je veux vous dire, la manière dont Dieu me parle, c'est pas la manière dont il te parle. Et il faut que tu le trouves à ta manière. Tu me suis? Amen. Inspire. Tu te branches. La Bible est claire. Vous, je suis le cep, vous êtes le sarment. Tu n'es pas la source, tu es le canal. Ne bouge pas le canal, tu n'es pas la source. Branche-toi à la source. Je laisse la sève de Dieu te remplir pour produire. Ensuite, j'expire. Le problème, c'est que si tu passes ton temps à inspirer la présence de Dieu, il y a des chrétiens comme ça. La gloire de Dieu. Ah. Je vais à l'église dimanche, mercredi, lundi matin, je reçois une prophétie, je vais exploser. Je vais exploser. Pourtant, c'est des bonnes choses, mais je vais exploser, je n'ai pas libéré. Vous comprenez ce que je veux dire? Les choses sont très simples. J'ai toujours dans la présence de Dieu, c'est bien. À un moment donné, il faut expulser ce que Dieu t'a donné. Expulse comme Jésus a fait. Ensuite, retourne respirer. Inspire, inspire, mais fais attention à ne pas exploser quand tu inspires. Et je suis sur YouTube et je veux répondre à ça, et tel pasteur, et tel machin, et tel truc. Oh, inspire calmement dans le repos de la grâce. Dans le repos de la grâce, Jésus, je suis là. Fais ce que tu as à faire, dis-moi ce que tu as à me dire. Je suis disponible. Et maintenant, je me mets en marche. Parfois, ce n'est pas clair, mais je compte sur ta grâce pour me conduire simplement. L'évangile est une bonne nouvelle et c'est très simple. Alors, j'expire, je libère la puissance. 1 Pierre 4, 10, on l'a dit. Que j'exprime toutes les grâces que Dieu m'a données. Je relâche ce que j'ai reçu. Je relâche. Ça veut dire que certains veulent relâcher uniquement à l'Église. C'est marrant, ça. Ils ont toujours des paroles pour l'Église. Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis quand tu regardes la vie en dehors de l'Église, il n'y a pas beaucoup de grâce. Si tu veux parler à l'Église, commence par parler dehors. Fais ce que tu dis, dis ce que tu fais. Et quand dans ton entourage, tu arrives à exprimer la grâce de Dieu qui coule sur toi, peut-être que tu auras un encouragement à donner aux chrétiens. Il y a des gens très spirituels, mais dehors, ils ne sont pas spirituels. Et c'est ça notre problème. Et on dit, mais le pasteur, il ne me laisse pas ma place. Non ! Si tu n'es pas spirituel à l'extérieur, je ne peux pas te laisser parler. Ce n'est pas possible. Parce que tu inspires dans la présence de Dieu avec tes frères et sœurs et tu donnes à l'extérieur, il y a une bénédiction qui coule. Et là, tu vas venir me voir. Mais tu te rends compte, j'ai exprimé, j'ai pratiqué la parole de Dieu, il s'est passé ça. Ah bah là, tu as un beau témoignage à donner à tes frères et sœurs. Parce que tu as inspiré, tu as expiré, tu as béni autour de toi. Jésus bénissait tout le monde et je veux être pareil. Amen. Alors expire dans ton foyer, expire dans ton travail, relâche les choses et commence à marcher sur l'eau. C'est un canal qui est ouvert entre Dieu et toi. Alors, moi, je vois tout simplement deux catégories de personnes. Les personnes épuisées de ramer. Les personnes épuisées de ramer et les personnes qui étouffent la grâce. Entre deux, il y a ceux qui fonctionnent bien. Mais la réalité, c'est que 80% des enfants de Dieu se trouvent dans une ou l'autre des catégories. Épuisés de ramer ou qui étouffent la grâce de Dieu pour X ou Y raison. Et c'est pour ça qu'on a des églises qui surchauffent. C'est pour ça qu'on a des pasteurs épuisés. Je ne suis pas épuisé, rassurez-vous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui produisent dans le service. Parce que d'autres n'expriment pas leur grâce. Alors qu'on est tous appelés à exprimer cette grâce-là. On hyperventile, tu vois. Et on ne produit rien. Mais nous, on veut produire. On veut vivre en tant qu'enfant. On tend la main. Dieu est venu à moi. Je reçois simplement ma paix. Elle vient de toi, Seigneur, malgré mes circonstances, ma joie. Et je veux communiquer cette joie-là à tout mon entourage. C'est simple, mais pourtant c'est dur à vivre. Le principe est simple, mais le vivre est plus compliqué. Alors quand Jésus, je termine avec ça, quand il est arrivé, il ramait. Et c'est dans Jean que ça nous est rapporté. Jean 6, verset 21, il nous dit... Ils voulurent le prendre dans la barque. Donc, ils voient Jésus qui passe. Ils ont peur, c'est un fantôme. Et lui, il marchait comme voulant les dépasser. Et là, ils disent qu'il est calme. Et voilà ce qui est dit. Ils voulurent le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Incroyable. C'est l'accélération divine de la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a des choses où tu as galéré 10 ans en ramant par toi-même. Jésus rentre dans ta barque. Tout s'éclaircit, tu es arrivé à destination. Je parlais à quelqu'un la semaine passée. Et je dis, tu sais, il me racontait ses problèmes. Je dis, avec Jésus, ça peut aller très vite s'il y a Jésus dans la barque. Ça peut aller très vite. Parce que toi, tu as galéré, ton concept, c'est que ça va être long avec Dieu. Dieu va te punir, que machin. Ça peut aller très vite avec la grâce de Dieu. Et la personne me dit, mais écoute, quand tu as dit ça, ça m'a impacté. Et tu sais quoi? 3 jours après, j'avais le résultat de ma prière. Dieu avait changé. Et aujourd'hui, quand je regarde 6 mois en arrière, je ne suis plus la même personne. Quand tu viens à Christ, que tu accueilles la grâce de Dieu, tu n'es plus la même personne. Mais ce n'est pas que pour le commencement quand on donne notre vie à Jésus. C'est aussi pour nous, les plus vieux chrétiens. Où est-ce qu'on s'est privé de la grâce de Dieu? Où est-ce qu'on patine un peu, ça ne décolle plus? Et on est juste dans le fonctionnement. Ben, ça peut arriver. N'éteignez pas la grâce de Dieu. N'étouffez pas la grâce de Dieu.